Le journal est présenté par Thomas Nagy.
Bonjour, l'Église catholique est en deuil. Le pape François est décédé ce matin au Vatican. Il avait 88 ans. Pour en parler, nous recevons le chanoine du canton du Jura, Jean-Marie Nussbaumer, dans ce journal. Jean-Marie Nussbaum, excusez-moi. Le faste au service du spirituel. Ce week-end, nous revenons sur les ornements et les riches enluminures de la Bible de Moutier-Grandval avec le diacre Didier Béret. C'est un week-end de Pâques teinté d'incertitudes pour l'industrie du chocolat. Le prix record du cacao, les tarifs douaniers ou encore la diminution de la consommation par habitant mettent la pression sur les fabricants. La situation est critique, selon le directeur de la fêtière Choco-Suisse. Ce lundi de Pâques, le ciel restera souvent nuageux en matinée avec quelques averses. Le soleil fera de belles apparitions durant l'après-midi, mais des averses orageuses ne sont pas exclues. Le vent souffle en rafale et les températures peineront à atteindre les normales de saison.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Ces mots, ce sont les derniers prononcés publiquement par le pape François. C'était hier sur le balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife est décédé ce matin à 7h35 au Vatican. Et cette figure emblématique du catholicisme moderne s'est éteinte à l'âge de 88 ans. Le pontife argentin était sorti de l'hôpital le 23 mars après avoir été hospitalisé pendant 38 jours pour une pneumonie. Et pour en parler, nous recevons le chanoine du canton du Jura, Jean-Marie Nussbaum. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'aimerais dans un premier temps vous entendre d'abord sur la surprise. Cette nouvelle, elle a été un choc pour beaucoup. Le pape est apparu hier sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Ce matin, on apprend son décès. On ne s'y attendait pas comme ça.
Absolument, très surprenant, surtout qu'il était présent hier. Non seulement il a donné la bénédiction Urbi et Orbi, mais après, il a fait aussi un déplacement sur la place Saint-Pierre en papa mobile pour saluer les gens, bénir les enfants. Et voilà, et tout a basculé, j'imagine, dans la nuit. Il s'en est allé, il a rejoint le Père. Alors c'est vrai que pour nous c'est surprenant, c'est plein d'émotions, mais je me dis en même temps, pour lui c'est la joie de la rencontre avec Dieu, avec celui qu'il a servi tout au long de sa vie. Et entre émotion et tristesse que l'on peut éprouver, je crois qu'il faudrait aussi éprouver la joie de Pâques, puisque cette joie de Pâques, il la connaît désormais.
Alors, l'annonce a été faite ce matin, lundi de Pâques, à 7h35. On écoute le compte-rendu à Rome de notre correspondant Antonino Gallofaro.
Le Vatican l'a annoncé peu avant 10h par la voix du cardinal Farrell, le camerlingue, avec ces mots. Très chers frères et sœurs, c'est avec une profonde douleur que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des marginalisés. Ces dernières semaines, le pontife avait déjà risqué de mourir deux fois lorsqu'il était hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome. Il souffrait d'une double pneumonie et deux crises respiratoires avaient failli l'emporter. Mais après 38 jours d'hospitalisation, ses conditions s'étaient améliorées et il avait pu rentrer au Vatican. Ce dernier mois, par contre, son état était resté stationnaire, selon le Saint-Siège. Maintenant, selon la tradition, s'ouvrent 9 jours de services funèbres. Le corps devrait dans un premier temps être exposé dans le palais apostolique pour un premier hommage public. L'inhumation devrait se dérouler entre le 4e et le 6e jour après sa mort.
Et on va évidemment revenir sur l'importance de François et son influence au cœur de l'Église et dans le monde aussi avec vous, Jean-Marie Nussbaum. Mais avant, je vous propose d'écouter un retour sur la vie du pape François avec Stéphanie Wenker.
Jorge Bergoglio restera certainement comme le pape de la simplicité et du renouveau. Devenu François en 2013, il a été le premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre. Le natif de Buenos Aires a bouleversé les codes en refusant les fastes du Vatican, privilégiant la proximité avec les fidèles. Il a multiplié les appels à la solidarité et à la paix, dénonçant les injustices et les dérives du monde moderne. Sa voix a aussi porté sur l'écologie. Homme de dialogue, il a tendu la main aux autres confessions, prônant une église plus ouverte et inclusive. Mais son pontificat n'a pas fait l'unanimité. Certaines de ses prises de position ont suscité de vifs débats, y compris au sein de l'église, notamment sur l'accueil des migrants, sa critique du capitalisme ou encore son ouverture prudente envers les divorcés remariés et les personnes LGBT+. Certains ont reproché au pape François d'aller trop loin, d'autres pas assez. Malgré ces controverses, son héritage marquera durablement l'histoire du catholicisme.
Jean-Marie Nussbaum, chanoine du canton du Jura, vous êtes aussi chroniqueur depuis près de 40 ans sur RFJ. On l'a entendu, le pape a souhaité entreprendre des réformes, au final peut-être sans le succès souhaité. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Mais c'est normal parce que quand on vient bousculer une institution, une curie qui a ses habitudes, qui a sa manière d'être, eh bien ça va pas tout seul. Et voilà, il faut du temps et puis on n'aime pas le changement. Hein, fondamentalement, chacun de nous, dès qu'il faut changer, on n'aime pas ça. Nous, on aime bien quand les autres changent, mais on n'aime pas trop changer nous. Alors le pape a essayé et puis je crois qu'il a quand même un peu réussi de, par sa personnalité à imposer un certain nombre de choses, de simplicité entre autres. Et puis de proximité, surtout avec les plus pauvres, avec les migrants. Vous vous rappelez peut-être que sa première sortie du Vatican, c'était sur l'île de Lampedusa, où tous ces migrants arrivaient et mouraient. Et puis, le pape est aussi celui qui a écrit de très beaux textes, comme Laudato Si ou Fratelli Tutti, mettant en œuvre un peu son nom, hein, François, qu'il avait choisi en fonction de François d'Assise, le saint qui avait épousé Dame Pauvreté. Et je crois que le pape a essayé de le vivre et d'inviter toute l'Église à vivre cela.
Du changement, il y en a en tout cas eu dans la fonction papale, hein, puisque François, c'est le premier pape non européen depuis le 8e siècle, si je ne me trompe pas. Selon vous, qu'est-ce qu'il a réussi à amener justement de non européen ?
Alors voilà, ça c'est une bonne question, de non-européen. Je crois que d'abord l'Église, il faut dire que l'Église n'est pas européenne, l'Église elle est catholique, elle est donc universelle. Et elle vit partout dans le monde avec l'évangile est toujours le même, mais la manière de l'accueillir, de le mettre en œuvre est différente et c'est tant mieux parce que ça respecte les langues, les cultures et les manières d'être des populations, des gens. Le pape était d'origine italienne de par ses grands-parents, il était argentin. Je crois que c'est surtout cette simplicité, cette proximité quand il était archevêque de Buenos Aires. Il prenait le métro comme tout le monde, il se rendait en banlieue qui n'était pas toujours très fréquentable pour célébrer la messe. Il avait une très grande proximité, un contact très, très simple, très facile, latin en quelque sorte. Et peut-être c'est aussi cela qu'il a amené de là-bas. Une personnalité très forte hein, aussi, parce que je crois qu'il avait une volonté et quand il voulait quelque chose, eh bien, il savait comment faire passer cette volonté. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce n'était pas toujours simple. Mais je voulais dire aussi une chose, c'est que dans l'Église, il n'y a jamais une période où il n'y a pas de tension. L'Église où tout va bien, où tout est merveilleux, etc., ça n'existe pas. De même que notre monde où tout est merveilleux, ça n'existe pas. Comme toute communauté, l'Église porte en elle des personnes et des courants différents. Et le miracle, c'est que finalement, tout cela est en communion et cohabite.
Pour revenir peut-être chez nous ici, comment est-ce que, selon vous, l'Église suisse ou même chez nous dans le Jura a été influencée par les orientations du pontificat de François ?
Je pense que la démarche synodale qu'il a entrepris la dernière hein, sur la synodalité, une manière de dialoguer que l'on a mis en œuvre entre autres dans le Jura pastoral parmi avec les agents pastoraux, où et c'est assez jésuite ça, ou de dire ben voilà, dans un premier temps on arrive chacun sur une question avec des positions différentes, on va commencer par s'écouter, chacun parle et puis sans être interrompu. Ensuite, chacun reprend la parole pour dire ce qu'il a touché chez les autres. Et puis après, dans un troisième tour, en quelque sorte, on essaie de voir quelles sont les convergences, sachant que si on est disponible à l'Esprit Saint, eh bien, on va trouver des points de communion pour aller de l'avant.
Une dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle. Vous-même, en tant qu'homme d'Église, quelle image est-ce que vous allez retenir de ce pape François ?
C'est le pape des périphéries. Voilà, j'aime bien cette idée du pape des périphéries qui va aux frontières et même au-delà à la rencontre de tous et de toutes et qui a ce souci vraiment de ceux qui sont au loin. Parce que quand on porte le souci de ceux qui sont au loin, automatiquement on englobe tous ceux qui sont tout près. Et je crois que c'est peut-être ça qu'on pourrait retenir du pape François et pour la mission de l'Église, c'est d'abord d'aller au loin pour pouvoir embrasser tous ceux qui sont entre là où on est et ceux qui sont au-delà des frontières.
Jean-Marie Nussbaum, chanoine du canton du Jura, merci beaucoup d'être venu en direct pour évoquer le décès et la vie du pape François, décédé ce matin à 88 ans. Belle journée.
Merci à vous aussi.
Et on le rappelle, les cloches du canton, les cloches du Jura pastoral, pardon, vont donc sonner à 15h aujourd'hui en hommage au pape François. C'est un ouvrage monumental dont les riches décorations servent aussi un aspect spirituel. Aujourd'hui, comme durant tous les week-ends, nous nous penchons à nouveau sur la Bible de Moutier-Grandval. Et derrière l'aspect imposant du livre qui est exposé en ce moment au Musée jurassien d'art et d'histoire, se cache un travail spirituel et minutieux, comme nous l'a confié le diacre Didier Béret, théologien et bibliste.
Oui, elle a bien sûr une portée spirituelle. On le voit à travers toutes les calligraphies qui sont faites aussi et toutes les illustrations qui sont présentes dans cette Bible. On ne prend pas seulement le soin de recopier, mais on recopie pour que ce soit beau. Et on agrémente ce copiage de représentations et d'illustrations qui permettent d'embellir encore. Donc on voit qu'il faut des connaissances, qu'on prend du temps pour faire bien, parce que quand on copie, on prie en même temps, et parce qu'on a envie, parce que c'est considéré comme la parole de Dieu, de la rendre la plus belle possible. Donc il y a vraiment un travail minutieux. On parle encore aujourd'hui d'un travail de copiste, un travail de fourmi incroyable, lettre après lettre. Et on a tous fait l'expérience à l'école, quand on doit recopier au tableau, à quel point c'est difficile de faire ça sans faute. Et là, on cherche des méthodes pour essayer de faire sans faute, en comptant le nombre de lettres, en veillant que les bouts des lignes soient les mêmes partout. Et dès qu'il y a un décalage, on perçoit où c'est faux, et puis on est prêt à arracher des pages et à recommencer pour que ce soit parfait.
Le chœur de chambre jurassien compile 15 années de répertoire. Pour fêter cet anniversaire, l'institution présentera 3 concerts fin mai sous la direction de Marc Kelliker. Le chœur chantera notamment au Collège Thurman le 24 mai et au Villebrequin de Lémon le 25. Présentation de la programmation du 15e anniversaire avec la coprésidente du chœur de chambre jurassien, Claire-Lise Nussbaumer.
On a voulu reprendre des partitions qu'on a déjà travaillées pendant ces 15 années de chant, des chants a cappella, une partie de chants sacrés, une partie de chants profanes, de compositeurs de différentes périodes, de différents pays, Allemagne, France, Italie. Dans notre répertoire, on a aussi des chants jurassiens. On avait fait tout un programme axé sur les compositeurs jurassiens, justement. Et là, c'est l'occasion d'en ressortir quelques-uns qui seront probablement une bonne surprise pour le public. Ces partitions sont historiques et font partie du répertoire du chœur, mais les membres ont changé. Si on fait le calcul, il y a peut-être une petite dizaine de personnes qui sont là depuis le début, ce qui veut dire qu'il a fallu retravailler effectivement les pièces pour tout le monde.
Cette programmation, elle sera présentée dans des lieux assez insolites, notamment le Collège Thurman et puis le Villebrequin à Delémont. Pourquoi vous produire dans ces lieux-là ?
C'est vrai, on a souhaité faire quelque chose d'un petit peu particulier pour fêter cet anniversaire et aussi pour pouvoir proposer de passer un moment avec les personnes du public après les concerts autour d'un petit apéritif.
L'industrie du chocolat suisse traverse une passe délicate alors que les festivités de Pâques battent leur plein. Le secteur est confronté à de nombreux défis. Les fabricants doivent notamment composer avec un prix du cacao qui atteint des records. L'année dernière, il a presque quadruplé, passant de 3 000 à près de 11 000 francs. Pour Roger Verly, directeur de la fêtière Choco Suisse, cette donnée se répercute actuellement sur les tarifs en magasin. Et surtout, elle met le secteur sous haute pression. Il tire la sonnette d'alarme. Roger Verly.
La situation est critique parce que on a cette hausse énorme de prix de cacao. On est en train d'élever les prix du chocolat. On ne sait pas encore comment les consommatrices et consommateurs vont réagir. Et maintenant, en plus, on a le problème avec les tarifs douanières dans les États-Unis. Donc c'est un problème général aussi. On a peur qu'on entre dans une phase de protectionnisme global. Et ça serait très grave pour notre industrie parce que nous exportons 72% de notre production de chocolat suisse à l'étranger.
Et pour faire face à cette situation difficile, l'industrie du chocolat en appelle aux autorités politiques. Elle demande notamment des compensations supplémentaires sur les taxes des matières premières importées. Dossier complet à retrouver sur rfj.ch. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Très belle journée.